Et à la une en Israël ce matin, il va bien sûr être question des otages, Lise, et vous accueillez ce matin comme souvent et on s'en réjouit. Raphaël Jérusalmi, ancien officier du renseignement militaire.
Raphaël Jérusalmi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors Raphaël, on entend beaucoup de choses sur une possible avancée vers un accord sur les otages. Depuis cet été, il y avait déjà eu beaucoup de bruit et finalement rien n'avait avancé. Qu'est-ce qui a changé pour que cette fois-ci, on ait l'air plus optimiste côté au moins israélien et américain ?
Je ne trouve pas que grand-chose ait changé. Je pense qu'il y a la seule différence peut-être, c'est l'ombre de l'administration Trump qui se profile à l'horizon, qui pourrait inquiéter un peu plus les parties qui négocient, c'est-à-dire les Égyptiens, le Qatar, Israël sur le plan diplomatique, et peut-être le Hamas qui pourrait prendre au sérieux les menaces qu'a proférées Donald Trump. En dehors de ça, sur le terrain, pas vraiment grand-chose à changer, c'est-à-dire on n'a toujours pas de moyens de pression sur le Hamas. Le Hamas se fiche toujours du sort des Gazaouis. Il n'a pas vraiment de possibilité pour les Égyptiens et les Qataris de forcer le Hamas à quoi que ce soit, surtout qu'on ne sait pas très bien avec qui on négocie en fin de compte. Il y a à Gaza même, maintenant, en ce moment, 5 chefs qui se dirigent la direction du Hamas, pour éviter que s'il y en a un qui est éliminé, il y en ait encore un qui puisse continuer à fonctionner. Il y en a aussi à l'étranger, à Istanbul, à Doha, avec qui véritablement négocie-t-on et qui a l'autorité et la capacité de effectivement remettre en main propre les otages, tous les otages, et le mot « tous les otages », c'est ici le plus important, car on se dirige vers des solutions de nouveau par étapes, par phases, avec des libérations partielles d'otages qui, à mon avis, sont extrêmement dangereuses et néfastes pour les otages qui sont dans les phases 2 et 3 de cette négociation.
Alors justement, Raphaël, le forum des otages depuis quelques semaines qui sent venir, qui sait que les négociations sont sur un accord en plusieurs phases, demande un accord d'une seule partie, la libération de tous les otages d'un coup. Mais on a l'impression que le Hamas, de toute façon, n'allait jamais accepter cette condition puisque c'est sa dernière carte à jouer.
Oui, exactement. Il faut bien comprendre que le Hamas, en vérité, n'a pas vraiment intérêt à rendre les otages. C'est effectivement son dernier atout majeur. On ne voit pas très bien quel intérêt aurait le Hamas à libérer ses otages, qui n'est justement ce que le Hamas demande et qui est effectivement la pierre d'achoppement de toute cette négociation, c'est-à-dire un retrait total des troupes de Tsahal hors de la bande de Gaza, un arrêt total des combats, et la libération d'un nombre assez important, pour ne pas dire énorme, de terroristes, inclus des terroristes qui ont du sang sur les mains. Et donc, ces exigences prises très fort, il a augmenté au lieu de diminuer avec le temps, et c'est le prix qu'aujourd'hui Israël doit absolument payer, doit absolument accepter de payer, car on n'aura rien gagné sur le plan historique après le 7 octobre, si nous n'avons pas libéré les otages, dans les livres d'histoire, il sera inscrit une défaite, même si on a renversé tous les régimes tyranniques du Proche-Orient, si on n'a pas libéré ces otages, nous n'aurons pas gagné le 7 octobre. Il faut bien comprendre que les Israéliens aujourd'hui voient effectivement, l'opinion publique israélienne voit cette libération des otages comme une priorité, évidemment, de tous les otages.
Vous parliez de la pression américaine. Il y a un grand ballet diplomatique à Raphaël Jérusalmi en ce moment entre le Qatar et l'Égypte. Mais surtout, on a vu également apparaître des rumeurs sur la possible implication de l'Arabie saoudite dans ces négociations. Et peut-être donc, c'était des révélations du journal Haaretz hier qui ont été démenties évidemment et par l'Arabie saoudite et par Israël, mais est-ce qu'on peut imaginer que Riyad ait un rôle à jouer dans cette fin de la guerre à Gaza et dans cet accord de libération des otages?
Le rôle le plus important que Riyad ait à jouer, c'est après, c'est-à-dire de garantir au Hamas un investissement financier important, donc infuser de l'argent dans Gaza, pour la reconstruction de Gaza, et de même apporter des garanties qui permettraient d'avoir une présence qui maintienne l'ordre et la sécurité. D'autres pays arabes en ont aussi exprimé le désir, donc d'avoir une force internationale, non pas de casque bleu de l'ONU, mais de pays arabes, qui viendraient maintenir l'ordre et la sécurité à la place de Tzahal, ce qui garantirait effectivement que Tzahal reste hors de la bande de Gaza, car sinon, évidemment, l'armée israélienne se réserve le droit d'intervenir s'il y a des menaces terroristes au sein même de Gaza. C'est la raison pour laquelle, et c'est un des problèmes de cet accord, Tzahal aimerait garder un certain contrôle de l'axe de Philadelphie sur la frontière avec l'Égypte et de l'axe de Netzarim qui coupe Gaza en deux, pour y laisser quelques troupes d'urgence, de vigilance, auxquelles il y aurait des problèmes, en tous les cas, durant les premières semaines du cessez-le-feu. Je dirais, sur le plan diplomatique, on a oublié le temps où on était plus malin en Israël. Et il faut absolument accepter toutes les conditions aujourd'hui pour la libération des otages. D'abord, parce qu'on n'a pas le choix, ça ne marchera pas autrement. Mais surtout, il faut toujours dire oui à tout. Et une fois que le dernier des otages aura mis le pied sur le sol israélien, libre à Israël de ne pas respecter cet accord. Nous n'avons vraiment pas à nous engager auprès d'une faction des terroristes et auprès d'une communauté internationale qui n'est pas intervenue comme il le fallait. Et donc on peut toujours dire oui à tout et ensuite changer d'avis. Les Saoudiens nous ont envoyé un signal très important, ils ont parlé pour la normalisation, qui n'exigeait pas un État palestinien, mais une feuille de route de négociation vers un État palestinien. Et donc, pareil, il faut accepter cette feuille de route, quitte à tomber en panne au milieu de la route.
Oui, bien sûr. Alors, on est, c'est vrai, avec beaucoup de bouleversements, Raphaël Jérusalemi. On parlait de Gaza et de la perte de vitesse du Hamas, mais également au nord, celle du Hezbollah, la Syrie et le régime de Bachar al-Assad qui s'effondre. On est véritablement déjà dans un nouveau Moyen-Orient. Est-ce qu'il va être plus facile pour Israël, ce nouveau Moyen-Orient ?
Dans un premier temps, il va être plus difficile dans la mesure où il y a beaucoup d'incertitudes qui planent un peu partout. Tout va dépendre effectivement de quel régime va remplacer celui de Bachar al-Assad. Il y a un effet domino qui peut être bon ou mauvais pour Israël, c'est que il se peut qu'il y ait des menaces similaires sur le régime du roi hachémite de Jordanie, des menaces similaires même sur le régime d'Abu Mazen à Ramallah, de Fatah, etc., etc. Et bien évidemment, l'Iran. Il y a ici beaucoup d'incertitudes. Une chose est certaine, l'équation stratégique aujourd'hui est complètement changée. Le pire cauchemar du chef du Hamas s'est réalisé, c'est-à-dire que non seulement Israël a gagné, mais Israël a complètement changé la situation stratégique au Proche-Orient. Avec tout simplement le point principal aujourd'hui, c'est Israël qui décide qui frapper ou ne pas frapper, qui épargner ou ne pas épargner. Israël se permet aujourd'hui de décider si ou non il va frapper l'Iran, si ou non il va frapper les Houthis du Yémen. Je pense que d'ici le week-end, nous aurons la réponse à ce sujet-là. Je peux véritablement qu'il soit la prochaine cible. Et si ou non s'investir ou pas dans ce qui va se passer en Syrie. Tout cela, c'est Israël qui décide et Israël seul, avec un avantage militaire certain qui vient d'être presque doublé par le fait que nous sommes la seule armée du Proche-Orient qui utilise l'intelligence artificielle dans ses nouvelles restructurations militaires, et puis le laser qui d'ici un an sera entièrement opérationnel, et donc le laser qui va changer la donne complètement, comme le dôme de fer l'avait fait d'ailleurs. Le dôme de fer a changé la donne par rapport à la menace des missiles et des drones, mais le laser va nous donner une supériorité militaire encore plus grande.
Justement, Raphaël Jérusalemi, vous parliez des Houthis. C'est moins dangereux que ça n'en a l'air, les Houthis ?
Non, c'est le contraire, c'est dangereux. Je dirais que le point le plus chaud aujourd'hui, le plus dangereux par rapport aux différents théâtres d'opération, c'est la Judée-Samarie. Qui est très très chaude, brûlante, une pomme de terre brûlante. Les Houthis du Yémen Je le dis, donc dans les prochains jours, Israël décidera ou non de frapper. On a prévenu la coalition internationale en mer Rouge que nous ne serons pas preuve de retenue, entre guillemets, comme certains le demandent. Et nous savons, d'après la dernière frappe d'Israël sur les outils du Yémen, qu'elle a été très très violente, très très puissante, parce qu'elle a touché leurs intérêts financiers, elle a touché le pétrole, les nerfs de la guerre, et que cette fois-ci, d'abord, il y a eu l'entraînement, les avions israéliens savaient exactement par où passer et quoi aller frapper, et si Israël décide de le faire, je pense que les Houthis seront dans une très 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 mauvaise passe.
Merci beaucoup à Raphaël Jérusalemi pour cette analyse, ancien officier des renseignements militaires de Tsahal et écrivain. Bonne journée à vous, à très vite.